Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Fergan Azihari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, qui a publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux éditions Les Liens, les presses de la cité. Non, pas Les Liens qui libèrent. Gilles Bercel, professeur d'économie à Neoma Business School, auteur de Travailleurs mais pauvres, inégalité et lutte contre la pauvreté laborieuse aux éditions de Buck. Et il y a cet éditeur CMN qui écrit excellent bouquin de Gilles Bercet qui montre que le manque de travail crée la pauvreté. Il faut augmenter le taux d'emploi des Français, écrit.
Merci.
Voilà. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business et BFM TV et RMC et voilà.
Ouf. Et c'est tout.
Il y a Romain qui écrit ouf. Plateau de droite ce matin. Les marges n'ont jamais été aussi hautes. Voilà pourquoi le CAC est haut. On va dire après que les entreprises galèrent, pas toutes, dit-il. Et puis il y a Jean-Sébastien.
Il y en a 40 qui galèrent pas.
Ouais. 8 euros sur 10 gagnent
presque 3 millions d'autres, c'est pas aussi facile.
Pour désmicardiser, m'écrit Jean-Sébastien, il faut augmenter le seuil des 1,6 progressivement tout en supprimant les subventions à l'inactivité. Vous vouliez réagir à ce qu'on avait dit. On avait parlé de crypto, d'euro numérique. On a parlé de la politique monétaire. Finalement, a-t-elle été inefficiente pour lutter contre l'inflation qui n'était pas liée à un excès de demande, mais à un problème d'offre?
La politique monétaire ne peut pas tout. Mais elle contribue beaucoup à ce qui se passe du côté de l'inflation. C'est pas le seul, effectivement, déterminant de l'inflation. Mais elle y contribue beaucoup. La politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique a été au rendez-vous pour soutenir l'économie dans des moments de crise intense, crise sanitaire. Et ensuite choc inflationniste, surtout en Europe. Mais la politique monétaire doit être également au rendez-vous pour nous prémunir d'une inflation qui pourrait s'emballer. Donc pour l'instant, le discours des banques centrales est tout à fait clair. Alors maintenant, est-ce qu'on doit faire toute une histoire du fait que la baisse des taux, la première baisse des taux pourrait avoir lieu en juin plutôt que dès avril, comme le préconise, comme l'appelle
le gouverneur portugais. Il avait dit qu'il faudrait que ce soit mars.
Je ne crois pas. Le pire risque pour une banque centrale, c'est le risque de crédibilité, de la perte de crédibilité. L'inquiétude, c'est de ne pas attendre. C'est ce qui peut se passer du côté des salaires. Si emballement des salaires il y a, le risque d'inflation interne serait très très fort. Et l'image du dentifrice est habituelle. Quand le dentifrice sort du tube, c'est très dur de le faire rentrer dans le tube. Donc c'est ça le risque maximum contre lequel faut se prémunir. Du côté des crypto-monnaies, quand même, je voudrais juste rajouter un point. La description qui a été faite par Fergan tout à l'heure, on pourrait la faire aussi pour des timbres postes. En se disant, c'est pas un actif spéculatif digital.
C'est plus difficile de produire du Bitcoin que des timbres.
L'avantage du Bitcoin, c'est que c'est digital. On n'a pas besoin de le faire bouger physiquement, en quelque sorte, le Bitcoin, pour le passer d'un individu à un autre. Néanmoins, c'est un actif spéculatif. Et je trouve que le discours des banques centrales à cet égard, et de la BCE à cet égard, est très, très bon et très, très clair. Attention, c'est spéculatif.
Mais comme tout actif.
C'est pas Madame Lagarde, mais quand
il y a un forex, il y a des monnaies, on spécule.
Absolument. Et quand il y a des très fortes spéculations de la valeur de cet actif, faut quand même mettre en garde les ménages. Ah, attention, ça augmente parfois très fortement.
Ça baisse très fortement.
Il y a des gens qui se retrouvent à poil.
Je crois que c'est Madame Lagarde qui avait dit le Bitcoin, ça ne vaut rien. Je ne sais plus si c'est elle.
C'est un actif spéculatif, ça n'est pas une monnaie.
Bon. Voilà. Moi, j'ai deux remarques. Je pense que
pour finir là-dessus, Fergan.
Est-ce que c'est une question à Gilles Bercet. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu pompier pyromane quand on parle des banques centrales? Moi, je lisais un article de Jean-Claude Trichet dans la revue Commentaire il y a quelques mois, dans lequel il admettait que les banques centrales avaient leur part de responsabilité dans l'inflation actuelle, c'est-à-dire que c'était évidemment pas la seule variable, c'est-à-dire que pendant des années, on a dit que le risque c'était la déflation, donc on a fait de la planche à billets pour contrer ce prétendu risque de déflation. Aujourd'hui, on a de l'inflation et on nous explique que les banques centrales doivent nous sauver de l'inflation. Est-ce qu'il n'y a pas un côté pompier, pyromane, quand on regarde la situation actuelle? Et s'il n'y a pas une part de responsabilité dans les banques centrales qui tantôt prétendent nous sauver d'une chute des prix, ce qui, moi, m'a toujours semblé un peu étrange, parce que j'ai vu beaucoup de gilets jaunes s'inquiéter de la hausse des prix. Je n'ai jamais vu de gilets jaunes manifester contre la baisse des prix.
Fergan, la déflation au sens macro du terme, c'est pas simplement la baisse des prix. C'est un processus un peu destructeur et annihilant.
La déflation, regardez l'histoire de l'économie, les économistes au 19e siècle vous disent que vous avez une période de déflation en Occident, ça n'a jamais été un problème pour la croissance industrielle. Alors, certes, aujourd'hui, vous avez des rigidités, vous avez un système politique qui est différent et qui fait que la baisse des prix serait beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce que vous avez le SMIC, parce que vous avez les syndicats, vous avez pas mal de rigidités en matière de liberté contractuelle, ce qui fait qu'on ne peut plus ajuster aussi facilement les contrats à la baisse comme on faisait dans le passé. Mais historiquement, on peut tout à fait... et d'ailleurs, c'est l'intérêt même du capitalisme que de baisser les prix. Donc, c'est ça que
moi, pyromane, moi, je pense que la réponse est oui, mais je ne sais pas ce que Gilbert pense.
Il y a une vaste littérature économique qui nous montre qu'une inflation pas assez forte, c'est un coût économique, effectivement, compte tenu de la rigidité des salaires. C'est-à-dire que les prix relatifs ne peuvent pas se mettre au bon niveau les uns par rapport aux autres.
Cette rigidité, elle est fabriquée.
Et puis, par ailleurs, une inflation trop forte a également un coût. Donc, l'idée, c'est de bouger autour, de façon proche, d'une inflation qui serait considérée comme optimale. Les banques centrales considèrent que le bon niveau d'inflation, la bonne stabilité des prix, comme elles disent, c'est 2% d'inflation par an. Est-ce que c'est vraiment le bon chiffre, pas le bon. En tout cas, les banques centrales sont d'accord sur ce chiffre. Elles ont lutté contre une inflation trop faible pendant 10 ans avec un certain succès, mais néanmoins, elles ne sont pas arrivées d'elles-mêmes à faire repartir l'inflation entre 2008 et 2019. Aujourd'hui, l'inflation, les risques inflationnistes sont assez fortes. Et là, le dentifrice pourrait sortir du tube. Elles font leur boulot. Elles ont été constituées pour cela avec une indépendance qui est uniquement mobilisée à cette fin. C'est leur fonction, c'est leur rôle qu'on leur a demandé en toute indépendance.
C'est des raisonnements à l'ancienne. Les banques centrales, elles ont fabriqué la pire des inflations depuis le milieu des années 80, qui est qu'en fait, en s'aveuglant sur ces 2% d'inflation qui n'avaient pas forcément de sens, elles ont tellement créé de liquidités qu'elles ont créé l'inflation, alors pas dans Main Street, mais à Wall Street. C'est-à-dire que l'euphorie financière des 30 dernières années, elle a été fabriquée par les banques centrales. Donc ce capitalisme financier, il a été fabriqué par les banques centrales. Donc oui, il y a bien un côté pompier-pyromane. Et puis, excuse-moi, pour revenir encore à cette dernière vague d'inflation qui a, pour la première fois depuis 40 ans, finalement retrouvé Main Street, comme on dit, il n'y a aucun des motifs qui explique la flambée d'inflation qui était lié à des raisons sur lesquelles les banques centrales peuvent avoir un impact. Donc, dire après, il y a un risque d'emballement de l'inflation maintenant, aujourd'hui, etc.
C'est une variable parmi d'autres.
Mais Emmanuel, le risque contre lequel elle voulait se prémunir, c'était pas évidemment le choc d'offre que toutes les économies ont connu suite à l'engagement dans la guerre, l'augmentation des prix d'énergie. C'est la transmission de ce choc d'offre au salaire.
Gilbert, on va poser
c'était
la question.
Ça, le risque.
On va poser la question.
C'est ça le risque.
Elle n'aurait rien fait. Elles n'auraient rien fait, les banques centrales. Est-ce que l'inflation ne ralentirait pas comme elle ralentit aujourd'hui?
Personne ne pourra répondre de manière certaine.
Le groupe bien facturé n'est pas fait.
On a restauré les chaînes de production mondiale, etc.
C'est une variable parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on peut se dire que toute chose égale par ailleurs. Je ne vois pas comment on peut nier.
Si elle n'avait rien fait. J'arrive pas à avoir une réponse certaine sur le ciel n'avait rien fait. Que se serait-il passé si elle n'avait rien fait?
Est-ce que les prix de l'énergie n'auraient pas rebaissé? Si, ils auraient rebaissé.
Je parle pas des prix du fret maritime. Pas des prix de l'énergie, là.
Non, mais attendez.
L'inflation énergétique, c'est quand même ça.
On parle pas des prix de l'énergie, on parle de la transmission.
Mais l'inflation, elle était où? Elle était sur l'alimentation, elle était sur le fret maritime, sur l'énergie, etc. Tout ça aurait rebaissé de toute façon avec le rétablissement des conditions normales de fonctionnement.
C'est d'autres choses dont il est question, Emmanuel.
Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui...
C'est d'autres choses. Là, t'es de mauvaise foi. C'est d'autres choses dont il est question. C'est la transmission de salaire dont on veut se prémunir. C'est ça dont on veut se prémunir.
Tes camarades du FMI disent que ça arrive très peu. Ça arrive quasiment jamais.
Quand ça arrive, c'est dangereux. Ouais. Voilà. Et moi, je suis plus inquiet dans un pays comme les États-Unis, tu vois, du gâchis du policy mix aux États-Unis, où tu as une politique budgétaire qui est très allante, très très allante. Ouais. L'IRA en est une manifestation et une politique monétaire qui est restrictive pour éviter justement une transmission au salaire. Et là, c'est que c'est un policy mix qui coûte des fortunes et des fortunes aux contribuables. Oui, dans cette contradiction. Alors, en Europe, on n'est pas dans cette contradiction.
Bah non, on aura les deux, nous. On aura la double restriction.
Mais non, c'est heureux pour éviter.
Oui, évidemment que ces pompiers pyromanes. Je vous rappelle la formule que m'avait mis sur la page d'accueil d'un de ses bouquins, Patrick Artus. Le bouquin s'appelait La folie des banques centrales. Il avait écrit à la main dans la dédicace. La prochaine crise arrive, la BCE l'organise.
Gilbert, c'est pas la Banque de France qui l'a travaillé, c'est à la Bundesbank.
On fait le contrefactuel. Allez, il y a pas 2012, il y a pas Watergate tax. On est où après? On est où 5-6 ans après? Est-ce qu'il fallait... C'est toujours pareil.
Est-ce qu'il fallait
faire la politique monétaire du quantitative easing?
Oui, si on l'avait pas fait. C'est comme les politiques budgétaires. C'est-à-dire que, il fallait assouplir au moment de la crise de 2007-2008.
Mais il fallait resserrer plus tôt. Bon.
Et le problème, c'est qu'on ne resserre jamais. Ouais. Et qu'on ne resserre jamais.
La semaine à 10 milliards.
Oui, on ne sert jamais, mais
le serment. Mais pas au bon moment.
Voilà. Le serment.
La semaine à 10 milliards, Fergan, et la semaine dernière, puis la semaine, cette semaine à 20, là. Vous avez vécu ces 15 jours, comment? Ça y est, la France reprend en main ses finances publiques. Elle envoie des signaux de sérieux budgétaire. Pour la première fois, peut-être, nous allons être en capacité de dépenser moins d'euros l'année suivante que l'année précédente. Ou alors vous dites, comme certains, Bercy en fait trop, c'est pas le moment.
Ah non, je pense pas que Bercy en fasse trop. Moi, simplement, je ne crois pas à la crédibilité de la parole du ministre. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on nous parle de rétablir les comptes publics et on voit bien que les finances publiques n'intéressent personne dans ce pays. Que lorsqu'on parle de rétablir quoi l'équilibre budgétaire en 2030, en 2040 ou au 23e siècle,
équilibre, c'est ça maintenant. Équilibre budgétaire, j'ai pas de date
donc,
en tête.
Voilà, personne n'a de date en tête. Et par ailleurs,
quand on
voit la manière dont on traite la question des dépenses publiques, c'est-à-dire que là, on parle de faire des économies, on veut faire les fonds de tiroir, on veut rationner la recherche, la défense, et puis on ne parle pas du premier poste budgétaire dans ce pays.
La masse salariale.
Non, c'est pas ça.
Les retraites.
Eh bien oui, ce sont les retraites qui constituent le tabou. Et d'ailleurs, vos confrères des Échos, là, il y a deux jours, ont rapporté les propos d'Emmanuel Macron, qui s'est, paraît-il, emporté contre les ministres qui oseraient mettre le sujet des retraites sur la table en leur disant que s'ils voulaient perdre des élections, c'est la meilleure manière de procéder.
Il a renoncé à la sous-indexation en 2025 que Thomas Cazenave avait évoqué.
Tout à fait. Il faut quand même rappeler quelques données. 60% de l'augmentation des dépenses publiques ces 60 dernières années sont imputables au seul poste des retraites.
60%.
Donc les retraites expliquent la majorité de l'augmentation des dépenses publiques ces 6 dernières décennies. Alors d'aucuns diraient que c'est la conséquence du vieillissement de la population, des dynamiques démographiques. C'est partiellement vrai, mais partiellement seulement, parce qu'on aurait tout à fait pu imaginer, parce que les dynamiques démographiques... le vieillissement, tous les pays occidentaux et européens sont confrontés à ce même phénomène. Simplement, les dépenses publiques n'augmentent pas aussi rapidement dans ces pays-là. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a des pays qui ont fait le choix de miser davantage sur l'épargne retraite. Et puis, il y a des pays comme nous qui ont méprisé toute forme de prévoyance. Et donc, on a fait le choix de faire reposer le financement des retraites quasiment exclusivement sur la répartition. Et ce système est en train de se retourner contre les actifs qui, je le rappelle, constituent une catégorie plus pauvre que les retraités. Et c'est là le paradoxe, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne demande pas d'efforts à la catégorie sociale la plus riche du pays, parce que les retraités forment la catégorie sociale la plus riche du pays, ont un niveau de vie plus élevé que celui des actifs, ont beaucoup plus de patrimoine que les actifs, ce qui est parfaitement normal, parce que quand on vous avait épargné pendant 40 ans, il est normal que vous ayez plus de patrimoine que le nourrisson qui vient de naître ou que le jeune qui entre à peine sur le marché de l'emploi. Néanmoins, il y a quand même un problème, c'est que ces retraités ne se contentent pas seulement de vivre du fruit de leur épargne légitimement accumulée tout au long de leur vie active, mais que le système de retraite par répartition tel qu'il est conçu fait que ces retraités siphonnent environ 28%, 30% en moyenne des revenus et de l'épargne de jeunes actifs qui sont par définition beaucoup plus pauvres.
Vous pensez qu'il aurait fallu, dans les efforts à fournir pour 2025, qu'il y ait une part
le simple fait qu'aujourd'hui aucun parti politique, ni à gauche ni à droite, ne met la question des dépenses de retraite sur la table en disant voilà.
C'est pour des raisons politiques.
Ben, c'est pour des raisons politiques, mais c'est pour de mauvaises raisons parce que on part du principe que l'électorat, que les seniors finalement seraient des électeurs complètement égoïstes qui ne seraient.
C'est pas ça.
Ils seraient motivés par aucun altruisme intergénérationnel. Je pense qu'on essentialise un peu vite les seniors, qu'il y a un véritable altruisme intergénérationnel chez les seniors. La preuve, c'est que c'est la catégorie qui épargne le plus. Et pourquoi les seniors épargnent-ils beaucoup ? Parce que d'une part, ils ne veulent pas dépendre, ils ne veulent pas être à la charge de leurs enfants et de leurs petits-enfants, et ils veulent transmettre aussi leur patrimoine à leurs enfants. Mais je pense qu'il faut dire à cet électorat-là, si vous voulez vraiment aider vos enfants et vos petits-enfants,
serrez-vous la ceinture.
Bah, serrez-vous la ceinture et baissez, réclamez une baisse des dépenses de retraite.
Alors, bah, Gilbert, là, par rapport à ce qu'a dit Fergan et les 15 jours à 30 milliards qui sont le thème chapeau.
Sur la France est victime pour ses finances publiques de ses incuries. Ces incuries, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les choses vont bien, on ne fait pas des réserves, en quelque sorte. On ne rétablit pas les finances publiques. On est toujours au taquet. On est toujours au taquet, ce qui nous amène évidemment dans des moments de retournement, de ralentissement conjoncturel, à ne plus pouvoir soutenir l'activité parce qu'on est au taquet en termes de finances publiques. Pourquoi cette recherche
sur les dépenses et sur les prélèvements ?
Pourquoi cette recherche d'économie de la part du gouvernement et de la part du ministre de l'économie ? Eh bien, tout simplement pour respecter des engagements en termes de déficit public qui sont les plus mauvais parmi les pays de la zone euro.
Clairement, là,
je veux dire, c'est pas pour être vertueux au-delà du raisonnable. C'est parce que nous sommes un pays qui n'a pas de réserve, en quelque sorte, de coussin, de protection.
Ce qui me frappe, là, c'est que
de sécurité.
On a eu l'habitude de se moucher avec nos engagements, et là, on a l'impression qu'on flippe un peu à Bercy sur le déroulement du budget 2024. Parce que j'ai rarement vu une mobilisation aussi rapide et aussi intense autour de montants aussi importants en cours d'année, quitte même à aller plus vite que
le loi de finances. Je ne vais pas faire de la psychologie, mais en tout cas, ce qui est en train d'être fait, la résultante, effectivement, d'une gestion des finances publiques qui, quel que soit le gouvernement, sur les dernières décennies, il ne s'agit pas de faire porter la pierre au gouvernement actuel. Tous les gouvernements qui se sont succédés sur les 40 dernières années ont pratiqué une incurie complète.
Problème, Gilbert,
pour les retraités, quand même, pour les retraités, excusez-moi, il faut quand même mettre les choses à plat. Je rassure Fergan, les projections, quelles qu'elles soient, même les plus optimistes, montre qu'il va y avoir une dégradation du niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs sur les prochaines années, sur les prochaines décennies, à l'horizon 2070. Toutes les projections dans ce domaine. Donc, il faut quand même voir ces réalités. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, le niveau moyen des retraités, le niveau de vie moyen des retraités est supérieur, légèrement supérieur à celui des actifs et de la population moyenne. Pourquoi ? Aussi parce qu'il n'y a plus de bouche à nourrir. Oui. Je veux dire, il n'y a plus de bouche à nourrir.
Si
alors retraité, il touche sa retraite pour lui, en général. Mais il n'a plus d'enfants, etc. Voilà.
Je rappelle que nous avons cotisé pendant 40 ans, me dit un auditeur.
Non, il n'a pas cotisé pendant 40 ans. Il a payé des cotisations pour financer la retraite des gens qui partaient à ce moment-là. Et il a eu la chance de cotiser assez peu par rapport à ce qui touche aujourd'hui, compte tenu de l'équilibre démographique.
Oui, tout à fait.
Donc voilà.
C'est
donc,
la vérité.
Oui, ce sont les retraités les plus heureux du monde. Ce sont bien les retraités français, sauf les retraités américains qui ont pu profiter effectivement de leur 401k pour sortir très tôt du marché du travail et profiter de leur capitalisation. Donc,
capitalisation.
Si vous voulez, sur les finances publiques, de toute façon, la séquence à laquelle on assiste, on en a vécu à peu près une vingtaine depuis 40 ans, puisque tous nos ministres, la phrase...
Rarement aussi stressante.
La phrase, on va ramener le déficit public sous la barre des 3% d'ici 2-3 ans, elle a été prononcée par chaque ministre de l'économie.
D'accord.
Et comme ce gouvernement n'utilise pas des méthodes différentes que les autres gouvernements pour essayer de racler les fonds de tiroir, ça va produire les mêmes résultats, c'est-à-dire une dépense publique qui augmente continuellement et qui n'a jamais diminué depuis 1950, que l'INSEE mesure tout ça de très près. Et voilà. Et donc, tant qu'on ne reviendra pas encore sur ce sujet de se demander comment on peut avoir une action publique qui soit moins coûteuse et plus efficace, on n'y arrivera pas. Et donc, on va encore accumuler ces situations grotesques, sachant que je rappelle que le principal objectif d'un ministre, quand même, est le signe hein, ultime de son pouvoir politique, c'est d'arracher le moins de coupes possibles dans son budget. Donc, tant que vous ne sortirez pas de cette culture, vous n'avez aucune chance de voir les dépenses publiques diminuer.
Faut quand même rappeler que la France est le pays, parmi les pays de l'OCDE et parmi les pays européens, le pays dans lequel les dépenses publiques en point de PIB sont les plus élevées.
10 points de plus que l'OCDE. 48 à peu près l'OCDE.
On n'est pas dans l'austérité et une gestion contracyclique des finances publiques, c'est pas simplement de dépenser plus quand la conjoncture est mauvaise, c'est aussi de dépenser moins quand la conjoncture est très bonne. Et ça, manifestement, on n'a pas su faire sur les dernières décennies. Donc on en paye le prix, parce que les gens nous regardent, Olivier, les marchés nous regardent, et se disent, ben mince, il y a une dérive des finances publiques françaises et de l'endettement public en France, pourquoi ? Eh bien parce que effectivement, il n'y a jamais eu de coussin qui a été constitué quand les choses allaient bien.
Trois réactions. Alors,
juste un point quand même. La solution à moyen et long terme, si on ne veut pas remettre en cause le système social français, ça sera uniquement par davantage de travail. Une augmentation du taux d'emploi en France. Je voudrais quand même signaler un tout petit calcul auquel je me livre depuis quelques mois. Si la France avait le taux d'emploi d'un pays comme les Pays-Bas, qui n'est pas l'enfer sur Terre, hein, 68% de taux d'emploi en France, 82% aux Pays-Bas. Même avec la durée du travail moyenne qui existe aux Pays-Bas, eh bien, le produit intérieur brut en France serait augmenté de près de 15%. Et ça ramènerait dans les caisses publiques, sans rien changer au taux de prélèvement, 150 milliards par an de plus. Avec ça, on pourra avoir des finances publiques en meilleur état, gérer le financement de la transition climatique, du vieillissement de la population, les attentes de gains de pouvoir d'achat, des réformes structurelles dans l'éducation nationale, par exemple. On pourrait financer cet ensemble de choses. La réponse structurelle à moyen terme, c'est l'augmentation du taux d'emploi en France.
On est bien d'accord.
Ça, il n'y a pas d'autre.
Il n'y a pas des relations aussi entre le taux d'emploi et la pression fiscale et sociale, parce qu'on sait que la pression fiscale a aussi des pèses sur les incitations à produire.
Je suis complètement d'accord.
Est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue ?
Complètement d'accord. Les prélèvements sont distorsifs et peuvent réduire l'offre de travail. Et puis par ailleurs, la distribution elle-même, c'est ce que dit le Premier ministre, peut désinciter certains, dans certains cas, à travailler.
D'où la question, peut-on augmenter le taux d'emploi sans remettre en cause certains aspects de notre modèle social ?
C'est ce que manifestement, dans le discours, en tout cas pour l'instant, c'est ce que les pouvoirs publics veulent faire, je crois.
On ne va pas couper au débat sur TVA ou CSG social. Ça va revenir, je pense que le truc... je ne sais pas si on le fera, mais en tout cas, je pense que c'est le débat qui va revenir en puissance. Gabriel Attal n'arrête pas de dire quoi. Enfin, non, c'était Bruno Le Maire. On ne peut pas éternellement faire peser sur qui pratiquement exclusivement le travail l'ensemble d'une facture qui ne cesse de gonfler.
Le problème, Nicolas, c'est qu'au-delà de ce débat TVA, social, CSG,
c'est pareil, facturer, quand on parle on la facture. Hein.
Quand on parle des multiples transitions qu'on est en train de vivre, digitale, écologique, etc., il va bien falloir aussi faire une transition fiscale. Puisque vous voyez quand même que moi je ne crois plus du tout à cette idée de réforme de l'État, ni la baisse des dépenses, dans la mesure où, quand vous regardez chaque poste budgétaire, il y a une telle pression aujourd'hui pour avoir une augmentation des dépenses, prenez la défense, prenez la santé, prenez la transition écologique, etc. Et donc, on va avoir besoin quand même de dépenser plus. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette transition écologique et cette transition numérique, elles sont en train, alors qu'elles réclament de plus en plus de moyens, de nous supprimer les unes après les autres tout un tas sources de revenus fiscaux qui sont quand même très préoccupantes. Quand vous aurez la voiture électrique, qu'est-ce qui vous restera comme taxe intérieure sur les produits pétroliers ? Quand vous aurez l'intelligence artificielle, dont on peut penser quand même qu'elle va se substituer à un certain nombre d'emplois, est-ce qu'il ne faudra pas envisager une forme de revenu permanent, etc.
On va revenir à taxer les robots, là.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où il va quand même falloir aussi s'interroger, dans ce monde en multiples transitions, sur les bases fiscales pertinentes qui seront celles du monde de demain. Et ça, c'est une réflexion, à mon avis, à laquelle on n'échappera pas.
Je te rassure, en France, on a toujours su trouver des nouvelles assiettes fiscales.
Effectivement, on a toujours été à la pointe de l'innovation.
De ce côté-là, on a toujours su trouver des nouvelles assiettes fiscales. Néanmoins, le point que je voudrais souligner dans les dépenses, un poste de dépense qui est considérable et qui n'a pas arrêté d'augmenter, c'est bien sûr celui de la masse salariale dans les collectivités locales.
Incroyable.
Les effectifs dans les collectivités locales ont augmenté dans des proportions considérables. La réponse à la taille massive, je veux dire énorme, de l'État dans un pays comme le nôtre, c'est évidemment une gestion plus forte, plus dure.
C'est sûr que si on
plus allante des collectivités locales et des embauches dans les collectivités locales, si des effectifs dans les collectivités locales.
Gilbert, si on disait sur chaque dossier que doit gérer un fonctionnaire, ils n'ont pas besoin d'être deux ou trois en parallèle à gérer le même dossier, parce que finalement c'est souvent ce qui se passe aujourd'hui, parce que quand on a créé les intercommunalités, c'était censé finalement remonter de l'or, l'échelon local n'a pas diminué, et c'est ça qu'on voit dans les 60 000 créations d'emplois dans le secteur public en 2023. C'est ça qui est dingue, c'est qu'au moment où il y a la pyramide des âges qui fait partir plein de retraités, plein de fonctionnaires en retraite, on les remplace.
Oui.
On les remplace.
Donc les effectifs de l'État diminuent.
Les effectifs de l'État diminuent, mais je parle là les collectivités.
Voilà, c'est les collectivités locales qui posent un vrai problème.
Bah oui.
Des réactions, hein. Il a cotisé pendant 40 ans, dit cet auditeur, par rapport à la réaction précédente d'un autre auditeur. Mais moi, je vais devoir cotiser 44 ans minimum pour recevoir beaucoup moins. Et puis, Dom m'écrit, pourquoi vouloir toujours taper sur les retraités? Le régime Agirc-Arrco est équilibré, ne coûte pas un centime d'argent public. Donc arrêtez d'incriminer les retraites et les retraités. C'est de la pure démagogie, Fergan. Arrêtez.
Bah, écoute, des cotisations.
Ce sont les chiffres. Quand on regarde effectivement le taux de cotisation des précédentes cohortes, il faut bien considérer qu'il y a un vrai problème d'équité intergénérationnelle. Et je ne pense pas que ce soit le président du corps qui me contredira.
Fergan, cette semaine, nous avons appris, quoi, grâce au cabinet, c'est Frank Knight qui a sorti une très belle étude en disant que la génération des milléniaux allait devenir la génération la plus riche de l'histoire.
Oui, ceux qui étaient entre 80 et 2000.
Ben parce qu'ils vont hériter, évidemment, de la génération des boomers.
Oui, mais là, vous voyez, c'est déshabillé. Enfin, on peut très bien aussi se dire si on n'avait pas piqué le pognon en amont, on n'aurait pas besoin d'héritage.
T'as des inégalités sociales terribles, puisque, évidemment
ceux qui héritent ne sont pas les mêmes que ceux à qui on...
Non, mais Fergan, quand même un point qui t'a souligné, que je voulais dire tout à l'heure. Quand on regarde le ratio des dépenses de retraite par rapport au PIB, 14%, bon, c'est vrai qu'on peut se dire que par rapport à d'autres pays, c'est élevé. Pour moi, c'est élevé, pas simplement et pas surtout à cause du numérateur, les pensions versées, c'est à cause du dénominateur, c'est ce que je voulais, le point sur lequel je voulais insister tout à l'heure. Avoir plus de produits intérieurs bruts par une participation plus forte sur le marché du travail, ça réduit, sans rien changer aux prestations de retraite, ça réduit le coût des retraites pour la collectivité, pour le pays. Et c'est ça qui doit être visé, justement, pour que des postes sociaux comme celui-là, voient leur part dans le PIB diminuer, c'est l'augmentation du dénominateur du PIB. Comment ? Par plus de travail.
Le numérateur a aussi un impact sur le dénominateur.
Bon. Puis par ailleurs, cette augmentation, quand même, sur des décennies, c'est la montée en puissance des régimes de retraite. Faut pas penser que c'est une générosité des régimes de retraite. C'est leur montée en puissance. Enfin, qui explique cette augmentation
progressive dans les autres pays développés. Il y a quand même une singularité française de ce point de vue.
Il y a la volonté d'avoir un taux de remplacement élevé.
Et encore une fois, je te rassure, quand on voit les projections, même les plus optimistes, le niveau de vie moyen des retraités par rapport aux actifs va très nettement diminuer sur les prochaines décennies.
Moi, je ne dis pas que les retraités sont trop riches. Hein. Je dis qu'ils sont trop riches dans le cadre d'un système de retraite par répartition. C'est-à-dire que si on était dans un système de retraite par capitalisation et que les pensions étaient la contrepartie d'investissements productifs, aucun retraité ne serait trop riche. Au contraire, dans un système par capitalisation, on n'est jamais assez riche puisque la richesse n'est pas un jeu à somme nulle dans cette configuration-là. Simplement, nous avons fait le choix d'instaurer un système de retraite qui est un jeu à somme nulle
entre actifs sont en train
et retraités. Donc, moi, je ne dis pas que les retraités sont trop riches. Je pense au contraire qu'ils seraient encore beaucoup plus riches.
Nos amis allemands sont en train de proposer d'ajouter finalement
un fonds souverain.
Capitalisation avec un fonds souverain.
Oui, mais un fonds souverain qui ne place pas l'argent des salariés, qui place de l'argent public.
C'est quand même...
À grande échelle, c'est notre FRR.
Oui, mais nous, notre FRR, il a 25 ans, il y a 21 milliards dessus. Eux, en 10 ans, ils escomptent 200 milliards d'euros.
C'est comme quand on passe son temps à pomper l'assurance vie.
Bah voilà,
absolument. Ça peut pas...
Le fonds allemand, il est censé en 2035 atteindre 200 milliards d'euros et pouvoir délivrer 10 milliards par an pour payer les retraités en Allemagne.
Alors, simplement, quand on a dit ça,
on a fini, hein,
comment faire monter un système par capitalisation quand existe déjà... Ça veut dire que des gens voient
qui
leur niveau
payer,
de vie... Voilà,
qui doit payer.
Des gens voient leur niveau de vie baisser transitoirement.
Et
cette transition est en...
Moi, j'ai un petit avis sur celui qui doit payer.
Cette transition est en train.
Il a un avis sur celui qui doit payer, je vous laisse deviner. Justement, pour éviter cet effet transition, c'est pour ça que le gouvernement allemand a décidé qu'il allait abonder ce fonds avec de l'argent public. Ah bon, on doit s'arrêter.
Sachant qu'ils en ont sous les pieds, eux, en termes de finances publiques.
Voilà. Eux, ils sont en train de dépenser 12 milliards et nous, on va aller essayer de les économiser. Voilà.
C'est ils pas en ont sous les pieds en termes de finances
publiques. C'est fini. Ergan Aziari, Gilles Verset, Emmanuel Lechip, merci. Lundi, rendez-vous 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.